affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Ce matin, comme toutes les fois où il y a des émissions sur notre antenne, j'ai pris le TGV. Cela aurait pu être un voyage comme les autres, mais cette fois-ci il était différent. J'ai bien sûr regardé, comme à chaque fois, par la vitre, mais cette fois j'ai regardé d'un nouveau regard les paysages, j'ai cherché ces inflexions, ce qui provenait de la trace de l'homme. J'y ai vu des sédiments d'une vieille civilisation paysanne, ouvrière, la civilisation française. Ensuite, mon regard a balayé le compartiment et je me suis attardé sur des visages, les visages de nos contemporains, et je me suis pris à divaguer un petit peu, à me demander que faisaient ces gens, d'où venaient-ils, quels étaient leurs parents, leurs espoirs, leurs souhaits, que représentaient-ils, dans quelle lignée s'inscrivaient-ils, avaient-ils encore de la mémoire et vers quoi se projetaient-ils. Ensuite, j'ai pris conscience que nous étions dans un train qui roulait à 300 km/h vers la capitale et je me suis mis à réfléchir au sens qu'avaient ces voyages à une telle allure et au rapport qu'il pouvait y avoir encore dans cet espace français entre l'espace justement et le temps. Je me suis demandé si ça n'abolissait pas justement toute capacité à acquérir une forme de profondeur. Tout cela ne m'est pas venu tout seul. D'habitude, mes voyages sont plus concentrés, mais j'en étais très heureux et je le dois à la lecture dans les jours qui ont précédé d'un ouvrage titré « La part de l'ange », qui est le dernier ouvrage de Jean Clair, de l'Académie française, conservateur général honoraire des musées de France, historien de l'art et écrivain. C'est son journal des années 2012 à 2015 et nous avons la chance de le recevoir aujourd'hui dans notre studio pour évoquer cet ouvrage, mais aussi bien sûr tout ce qu'il contient, c'est-à-dire, si j'ai bien compris Jean Clair, une réflexion sur le destin singulier qui est celui de notre civilisation. Est-ce bien cela ?
Oui, c'est cela. Encore que si c'était cela, ce serait une ambition démesurée. C'est plutôt des espèces de... C'est plus difficile à décrire. Les Grecs appelaient cela, ce genre d'ouvrage, des stromates. Autrement dit, des mélanges, des éclats. Une sorte de journal écrit, comme le veut le terme, au jour le jour, et qu'on essaie ensuite de gonfler. Non pas de gonfler, mais de auquel donner un peu une certaine cohérence, une certaine solidité, une certaine continuité à travers les journées, à travers la traversée des jours, particulièrement dans un monde comme le nôtre où tout devient, dans ce que vous venez de décrire à propos du TGV, un déplacement instantané quasiment, et on change d'un lieu pour un autre aussi vite que possible, mais sans plus avoir la sensation de la continuité du temps et même des raisons pour lesquelles on se déplace d'un lieu dans un autre et à travers des configurations terrestres ou autres qui sont toujours différentes et qu'on avait plaisir autrefois à regarder se succéder par la fenêtre. Aujourd'hui, c'est vraiment une sorte de parenthèse et qui est un petit peu effectivement à l'image d'une société ou d'une civilisation peut-être qui s'est très très vite dégradé au point que aujourd'hui l'impression est assez désolante d'un paysage tout aussi désolé que celui qu'on aperçoit parfois dans les ralentissements du TGV ou lorsque ce TGV s'arrête parce qu'il y a un accident de plus en plus fréquent ou une panne de plus en plus fréquente elle aussi. Voilà, c'est une méditation effectivement qui n'a rien de très heureuse, mais en même temps qui n'est pas désespérée. C'est une sorte de constat presque apaisé de ce que peut vivre un citoyen aujourd'hui, pour autant qu'il se sente encore citoyen d'un pays qui aurait des frontières et une identité, ce dont je doute de plus en plus.
Justement, votre ouvrage, qui n'est effectivement pas un journal au sens habituel du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des notations prises au jour le jour, du genre lundi, telle date, je pense ça, c'est pas du tout ça, c'est effectivement quelque chose qui est beaucoup plus approfondi, beaucoup plus. Et c'est un ouvrage avec des ressacs où les réflexions se répondent les unes aux autres. Ça commence par les mots. Pourquoi commencer par les mots ? On sait qu'au commencement était le verbe, pour vous, ça démarre par les mots.
Oui, parce que peut-être pour des raisons qui sont fortement liées à mes origines, à mon pays d'origine, à mon milieu d'origine, qui, je ne dirais pas qu'il était un milieu défavorisé, je déteste le mot, ce milieu n'était pas défavorisé. C'était un milieu de paysans, et les paysans n'étaient pas défavorisés. C'était un milieu sans doute assez rude, assez rugueux, assez dur, mais en même temps d'une extraordinaire chaleur et d'une extraordinaire intensité à chaque instant de la journée. Donc ce n'était pas un milieu défavorisé, mais c'était un milieu, si vous voulez, où justement le sens de l'existence était tellement fort qu'on hésitait à en parler. Le mot avait quand même une importance dans ce milieu très simple, et encore une fois, de petits paysans, de petits ruraux, du fond de la Mayenne ou du fond du Morvan. Le mot avait encore une telle aura, un tel halo que on en usait très peu, parce que c'était vraiment recourir au mot, c'était presque indécent. On ne parlait pas. C'était un pays taiseux, comme le monde paysan est un pays de taiseux, et on s'interdit d'utiliser les mots, avec presque une espèce de révérence sacrée qu'on ne trouve que, effectivement, que dans certaines religions, où user des mots est quand même extraordinairement régulé, et que pour ma part, j'ai ensuite retrouvé plus tard dans la psychanalyse que j'ai abordé comme analysé, non pas comme analysant, et où j'ai, là aussi, plus tard, j'ai pu confirmer l'expérience de mon enfance, c'est-à-dire l'expérience d'un monde où il faut savoir garder le silence, le garder au sens de le conserver, savoir le conserver, et ne pas surtout abuser des mots. Et en même temps, si vous voulez, ça n'était pas un monde de misère linguistique, bien au contraire, c'était le contraire de la misère linguistique des gens des banlieues aujourd'hui, dont on dit que le vocabulaire ne dépasse pas 500 mots, 600 mots. Là, c'est la véritable misère. Au contraire, c'était un monde où le mot, s'il était utilisé avec parcimonie, par contre, était révéré et connu avec un immense appétit. Une anecdote qui me revient comme ça, ma mère a fait partie de ces gens qui régulièrement, toutes les semaines, envoyait une petite somme d'argent pour acquérir des fascicules qui lui arrivaient par la poste. La poste, à l'époque, fonctionnait, même au fin fond des campagnes, des fascicules des romans de Victor Hugo. Donc elle rassemblait, faisceau par faisceau, les chapitres des romans de Victor Hugo, et quand les fascicules étaient arrivés à leur fin, le livre ensuite était relié en cuir, d'ailleurs très beau. Et voilà, alors j'ai comme ça la collection complète des romans de Victor Hugo, des Misérables à 93, ce qui dénote tout de même chez ma mère une espèce de goût pour les mots tout à fait étonnant, et en même temps de savoir du vocabulaire qui, je crois, me semble-t-il, je le crains, a disparu aujourd'hui, puisque la prochaine réforme du vocabulaire va consister à simplifier, paraît-il, l'écriture. Très bien, l'orthographe. Jusqu'au moment où, je pense, on imposera un vocabulaire de 600 mots pour avoir une égalité entre les gens qui ne possèdent pas les mots et ceux qui les possèdent. Bon, c'est un désastre, ça sera évidemment un désastre. Nous courons au désastre, et c'est un petit peu ce journal décrit, sans aucun appel d'ailleurs ni à la révolution, ni à la fureur. On a l'impression effectivement d'être écrasé par un destin qui, voilà, depuis quelques décennies, c'est ainsi, c'est l'histoire qui s'écrit, et qui s'écrit malheureusement sans nous.
Le, Le processus que vous décrivez, c'est celui que vous venez d'aborder, d'une perte des mots qui donne le sens probablement au monde qui nous entoure, fût-ce en désignant les choses qui le constituent, mais aussi d'une séparation, si j'ai bien compris, du sol. C'est-à-dire que l'homme est coupé de ses racines parce qu'il n'a plus les mots, mais il est aussi coupé du sol au sens propre du terme.
Oui, parce qu'effectivement, je pense que le sol, la culture, si vous voulez, dans tous les sens du terme, y compris la cultura animi des anciens, impose une discipline qui fait qu'il y a ce recours aux mots pour expliquer le chaos du monde. Et aujourd'hui, on a l'impression, au contraire, que l'ordre est tel qu'il n'y a pas besoin de mots pour l'ordonner encore plus. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Bah,
peut-être revenir, il y a des pages où vous faites de très beaux parallèles entre la culture au sens paysan du terme et la culture au sens lettré du terme, en expliquant que tout cela c'est tout un.
Oui, c'est la même chose, la cultura animi des anciens et la culture agraire des sociétés pré-industrielles, c'est deux choses extraordinairement proches, et c'est seulement aujourd'hui, si vous voulez, donc 70 ans après cette expérience d'enfance, que je me rends compte vraiment, que je me rends compte à quel point effectivement la proximité est très grande, parce qu'il y a une, comment dire, je parlais tout à l'heure de frontières, il est évident que les mots définissent des frontières entre différents concepts et différents sens, au même titre que dans le bocage, par exemple. Les haies définissent des parcelles de territoire qui ont chacune leur rôle et qu'il convient de conserver telles. Et au-delà des haies du bocage, c'est l'inconnu. C'est parfois l'effrayant, d'ailleurs. Le bocage est une terre de sorcellerie, donc ce qui est au-delà de la haie est déjà l'inconnu, et un inconnu souvent menaçant. Tout comme au-delà du mot commencent les fantasmagories de l'inconscient, de l'occulte. Donc il y a là une discipline verbale, si vous voulez, très étonnante, qui a été respectée très longtemps, et qui me semble aujourd'hui ne l'est plus. Je le dis d'autant plus fortement, et sans passer pour un vieil imbécile, que je... réactionnaire, évidemment... que je fais partie de la commission du dictionnaire à l'Académie française, donc chaque jeudi matin pendant 3 heures, nous sommes une douzaine à étudier les mots du vocabulaire et à décider de leur maintien ou de leur omission, ou de leur enrichissement selon les besoins du jour. C'est une discipline très étonnante.
L'autre, au-delà des mots, il y a aussi quelque chose de moins formulé, ou différemment en tout cas, une réflexion qui traverse le livre sur les images, qui vous a évidemment occupé une grande partie de votre vie, puisque
vous êtes
conservateur et historien d'art.
Oui, c'est bon. Ça a été, si je puis dire, mon métier, ou ma raison de... Enfin, peut-être pas ma raison de vie, mais en tout cas, mon métier pendant une quarantaine d'années, m'occuper des images. Peut-être aussi parce que l'image permet de... non pas d'échapper aux mots, mais d'être un repos à l'écart des mots. On pose le regard sur un tableau, donc on repose son regard sur un tableau, alors que les mots vous obligent perpétuellement à un effort de verbalisation. Et je dois dire à cet égard que le fait d'avoir vécu dans un milieu de conservateurs et d'historiens d'art, donc de gens nécessairement silencieux, perdu, non pas perdu, mais absorbé dans l'étude d'image, m'a permis d'éviter le brouhaha parisien du monde littéraire, des gens de lettres, et bien que je les ai évidemment côtoyés, puis j'ai pu me tenir à l'écart un petit peu de ce brouhaha du petit milieu littéraire parisien, et donc ne pas succomber au chatoiement des mots et en me réfugiant dans la béatitude des images.
Alors, à propos de cette carrière de conservateur, on sent que vous preniez plaisir justement à vous mettre en retrait pour voir les œuvres, les manipuler, on imagine dans des lieux un petit peu comme des cryptes, à l'abri, comme vous le disiez, de ce monde trépidant. Toutefois, au détour d'une phrase, d'un paragraphe, je lis cette phrase-ci. « Je ne pouvais imaginer, entrant dans la carrière des musées, que je me trouverais quelques années plus tard, non dans un refuge à l'abri du monde moderne, mais tout au contraire installé au cœur d'un laboratoire où se lisaient le mieux les signes annonciateurs, de l'effondrement de notre culture. » Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela, mais dans le déroulé?
Ça n'est pas évident. Et ça ne prétend pas être choquant, d'ailleurs, c'est pas une provocation, c'est vraiment une expérience vécue. D'une part, la crypte à laquelle vous faisiez allusion, évidemment, depuis Bellurène disparue, et les musées, comme vous pouvez le voir n'importe où, sont devenus des cubes de verre totalement transparents, totalement amorphes, dans la mesure où il n'y a plus aucune circulation définie. Il n'y a plus de haies, si vous voulez, il n'y a plus de bocage. Ce sont des vastes espaces amorphes, transparents, illuminés par la lumière, trop forte en général, et où les principes de choix ou de ségrégation sont à peu près impossibles à définir. Si bien que très vite on se pose la question de savoir mais pourquoi ces choses-là sont sur des murs, quel genre de mur, et pourquoi ici, pourquoi pas là, et donc il y a une espèce de Capharnaüm désormais sous l'image de la plus grande lumière et de la plus grande transparence, celle du verre et avec la force de l'acier des structures, de ces musées. Je pense à Beaubourg, mais enfin, après Beaubourg, il y en a eu des centaines d'autres encore plus autoritaires dans leur architecture. Oui, c'est vrai, je me suis mis à me demander... À quoi pouvaient bien servir les musées dans le monde actuel? Et si le malheureux André Malraux revenait, que penserait-il de sa fantaisie du musée imaginaire, dont il ne reste strictement rien, sinon exactement le contraire de ce qu'il avait imaginé? Mais là, il y a vraiment toute une réflexion que je voudrais poursuivre, à la lumière évidemment de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde des images, puisque le monde des images n'est plus du tout un champ de pacifié après la bataille, au contraire, redevient le champ d'élection des batailles les plus violentes, les plus sanguinaires, les plus fortes, puisqu'on redécouvre, à l'occasion de ce qui se passe dans le domaine des guerres de religion, qui réapparaissent, Malraux l'avait prévu, puisque réapparaissent donc des choses à propos du sens des images et de leurs valeurs qu'on n'aurait jamais pu imaginer il y a seulement 20 ans. C'est à nouveau des images que l'on fait exploser et avec eux que l'on égorge ou que l'on pend les gardiens de ces images, les directeurs de musée par exemple, je pense à Palmyre ou d'autres. Bon, et brusquement l'image redevient d'une puissance absolument déflagratrice qui est celle de la... commencement, je crois, de la fin, là aussi, de ce sur quoi nous avons vécu dans une civilisation des Lumières pour, à nouveau, être une société qui va s'entre-déchirer pour le pouvoir reconquis et le sens des images. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois qu'effectivement, le domaine des images, le domaine de l'art, le domaine de l'iconographie, le domaine des représentations, le domaine du visage, le domaine des formes, que nous avons, ce domaine que nous avons tellement négligé, qu'il est devenu aujourd'hui le domaine dérisoire des foires de l'art ou des petits lapins de Jeff Koons, ce monde aujourd'hui, au contraire, redevient un monde où l'on peut le mieux examiner, supputer, deviner ce qui va se passer, le sens de cette attention faite à, si vous voulez, le visible et l'invisible, le voile et le non-voile, le tableau et le non-tableau, la représentation et l'interdit de la représentation. Donc là, il y a brusquement un retour très violent de querelles religieuses qui ont été des querelles sanguinaires il y a quelques siècles et qui reviennent aujourd'hui nous en pleine figure, nous frapper et menacer notre existence et en tout cas notre culture.
Ce que vous décrivez, on ressent néanmoins des des mouvements contradictoires. C'est-à-dire que j'ai perçu d'ailleurs dans votre ouvrage, c'est-à-dire qu'on perçoit une sorte de vague de fond de l'iconoclasme. Il faut nous expliquer laquelle, dans la mesure où on a simultanément l'impression de vivre dans une société où les images, où l'image est omniprésente, mais peut-être n'a-t-elle plus simplement de valeur. Pouvez-vous nous expliquer cette tension qui peut être à la fois un antagonisme ou un nœud de compréhension de ce qui se passe?
C'est assez
ambitieux, mais
c'est difficile à expliquer parce qu'il y a à la fois cette espèce d'inflation prodigieuse de l'image. Nous sommes sursaturés perpétuellement d'images et en même temps ces images n'ont aucune valeur. Quand j'étais petit à l'école, quand on vous donnait un bon point, et en particulier un bon point illustré, c'était un événement qui sanctionnait quelque chose de bien. Bon, aujourd'hui, après il y a eu l'étape suivante où on découvrait des images colorées dans les barres de chocolat ou dans les paquets de riz. Bon, c'est encore autre chose, mais aujourd'hui, tout ça fait sourire évidemment. Mais c'est pas si vieux, c'est-à-dire quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, évidemment, il y a un tel déferlement d'images qu'on est gavé, sursaturé d'images. Et en même temps, évidemment, on oublie du même coup que les images ont un pouvoir très très fort, comme les mots, bien sûr, mais plus fort encore. Et par conséquent, aux frontières, se dressent des cultures pour qui l'image a un pouvoir très très grand. Et nous sommes rappelés, à la puissance de ce pouvoir, et nous ne savons pas très bien comment y faire face, parce que on est totalement désarmé, on est devenu d'une telle désinvolture, au sens propre du terme, dans désinvolture, il y a le visage, telle désinvolture qu'on ne sait pas très bien comment réagir, on ne comprend pas. Et alors il ne suffit pas de dire, on enlève le voile, d'accord, on enlève le voile, et alors, so what? C'est le problème, la réponse est dérisoire par rapport à l'énormité du problème à nouveau posé, comme il l'a été au VIe siècle, au moment de la crise iconoclaste dans l'Église d'Orient, au moment de la révolution élisabéthaine en Angleterre, au moment de l'iconoclasme des révolutionnaires après 92. Je ne sais pas si on se rend compte aujourd'hui qu'on est en train de vivre à nouveau une période comme celle-ci, qui sera tout aussi violente, tout aussi sanglante, et en même temps, on est obligé, effectivement, de reconsidérer totalement l'économie, si vous voulez. On disait, il n'y a pas si longtemps, l'économie iconique, ou la libidinée iconale, je ne sais pas très bien comment dire ça. En tout cas, maintenant, c'est autre chose. Redevenons sérieux.
Vous pensez qu'on arrive à la fin d'un cycle ?
Oui, je ne sais pas si on peut appeler ça un cycle, parce que ça suppose, si vous dites cycle, ça veut dire que l'histoire serait gouvernée par des espèces de répétitions chroniques dont on ne voit pas exactement qui les ordonnerait. Mais en tout cas, oui, nous sommes à la fin d'un cycle. Mais c'est plus qu'un cycle. Je crois très concrètement que c'est la fin d'une culture qui a été celle de l'Europe pendant quelques siècles. C'est très concret. Alors, pas des cycles.
Cette culture, pour bien être précis, je ne vais pas dire l'acte de décès, ce serait un petit peu sec, c'est plus comme votre ouvrage ressemble davantage à un requiem, parce que vous enchantez les louanges et la beauté aussi avec beaucoup de nostalgie. De quoi est-elle morte? Comment peut-on expliquer qu'une civilisation ayant un tel degré de maturité, de finesse, de profondeur, d'élégance, puisse en si peu d'années dégénérer dans une telle vulgarité? Quel est le mal et peut-on finalement le guérir?
Oui, mais
Oui, on a tous nos fantasmes.
Oui, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas philosophe, mais je ne me déroberai pas à la question, mais c'est très difficile à dire. L'exemple n'est pas... On a déjà connu cette... dans l'histoire, ce genre d'écroulement très très rapide en quelques années d'une civilisation qu'on croyait si puissante et si raffinée et si évoluée. Et puis voilà, du jour au lendemain. Bon. Donc, les historiens en ont longuement parlé, je ne pourrais que répéter ce qu'ils ont dit. Dans un texte récent, je parle de... Tertullien et de Saint-Augustin. Excuse de citer les grands-pères de l'Église, qui ont des mots d'une violence ahurissante pour nous aujourd'hui, pour condamner Tertullien, par exemple, les jeux du cirque et les sports. On n'oserait pas aujourd'hui dire ça face à la toute puissance des sports, et en particulier du football. On n'oserait pas, on serait tout de suite traduit dans les tribunaux. Or, Tertullien condamne cela avec une puissance tout à fait étonnante. Et Saint-Augustin, de son côté, également, a des mots d'une violence ahurissante, mais en même temps, certains passages d'une tendresse et d'une douceur admirable, et d'une rhétorique admirable pour rappeler la nécessité de la beauté. Tertullien était, je crois, tunisien d'origine, et Saint-Augustin était algérien d'origine. Ça me laisse comme ça, un peu rêveur, si vous voulez, 4e siècle, 5e siècle. Écroulement de l'Empire romain en l'espace de quelques années. Et rappel à l'ordre, et quel ordre ? Par les pères de l'Église chrétienne, tous les deux berbères. Donc, si vous voulez, on pourrait s'amuser, mais c'est un drôle d'amusement. On pourrait aujourd'hui repérer ce genre de... Enfin, retrouver là quelques traits annonçant ce qui peut se passer aujourd'hui. Mais je ne vais pas jouer les prophètes de malheur.
Oui, pour l'espèce, ça peut être une lueur d'espoir. En tout cas, vous portez un diagnostic sur les causes, une interrogation à plusieurs reprises. Vous interrogez sur la destinée nécessairement funeste d'une civilisation qui a perdu tout sens de la transcendance. Oui. C'est un mot qui est un peu passé de mode, la transcendance. Hein.
Oui, mais enfin, je crois que les philosophes l'utilisent encore, parce que on a tellement été gavé d'immanence à propos de tout et n'importe quoi que on dit, bon, on arrête, on passe à autre chose, ça suffit. Il n'y a pas seulement l'horizontal, il n'y a pas seulement Il n'y a pas seulement les besoins quotidiens, il n'y a pas seulement le TGV à 300 km/h. Il y a aussi peut-être besoin d'autre chose, de savoir où on va, par exemple. Et là, ce n'est pas une question de déplacement instantané d'un lieu à un autre, c'est une question de sens, de donner à ce déplacement. C'est tout à fait autre chose. Là, c'est la transcendance. Je crois effectivement que cette absence de transcendance est la marque même de l'effondrement d'une civilisation. Qui s'écroule sur elle-même, elle s'écroule dans son immanence. L'immanence même est un écroulement, si vous voulez. Mais je ne peux pas tellement en dire plus. Il y a quand même le désarroi actuel est quand même très profondément ressenti dans les habitants d'une même nation, d'une même patrie, si j'ose utiliser ce mot. Tellement démonétisé. Et c'est pas des programmes économiques qui vont changer quoi que ce soit.
Ce qui est assez étonnant, si vous voulez, c'est qu'on sent effectivement, chacun le ressent, une forme d'atrophie, d'implosion, et en même temps d'enflure sans fin. C'est-à-dire que les mots nous échappent pour décrire ce qui se produit. C'est-à-dire qu'on a l'impression que notre civilisation, pour utiliser un grand mot, ce modèle est à la fois complètement un bout de course et pourtant ne cesse d'enfler. Est-ce que finalement, c'est pas son absence de forme qui le caractériserait plus que son effondrement ?
Oui, 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 mais là, vous décrivez le phénomène cancéreux, c'est-à-dire la prolifération d'une maladie particulière où il n'y a plus aucune barrière à la prolifération. Infini, produisant des aspects du corps particulièrement désagréables à voir, bien subir. Mais parce qu'il y a, je ne sais pas, parce que peut-être la base même sur laquelle, semble-t-il, nous fonctionnons, c'est-à-dire la croissance, qui supposerait un phénomène indéfini n'est plus un modèle acceptable. Tout le monde le sait bien. On ne va pas indéfiniment croître jusqu'où, pourquoi produire des voitures, pour qui, pourquoi, jusqu'à quel moment. Et puis le 1,5 de taux de croissance chaque année, sinon on n'est pas... Bon, non, tout, on est en pleine folie, là. On est en pleine folie et on sait très bien qu'on arrive au bout, là aussi, d'un cycle, de ce cycle dont on parlait tout à l'heure. Parce que les réserves naturelles s'épuisent, parce qu'il n'y a plus assez d'air pour respirer tranquillement, parce qu'on a les yeux rouges, vous et moi, aujourd'hui même, autour de cette table, parce que la pollution est devenue... Ouais, bref, tous ces petits signaux de rien du tout, mais qui sont en même temps autant de petits signaux de que la machine s'est détraquée et que le modèle croissance continue n'a plus aucune pertinence. Donc il va falloir trouver d'autres modèles. Pour l'instant, on les cherche.
Vous évoquiez tout à l'heure, comme analogie, l'effondrement de l'Empire romain, en disant oui, ça s'est déjà produit dans l'histoire. Je n'ai pas le sentiment que la rupture entre le monde, je veux dire, moderne, ou plutôt contemporain,
oui,
et le monde qui était encore celui d'après-guerre, plus importante que celle qui séparait le monde romain du monde chrétien qui a suivi.
Attendez, je suis pas certain d'avoir.
Vous évoquiez comme
oui,
rupture
oui,
l'effondrement du monde romain et oui, l'émergence de la réaction là à travers saint Augustin et Tertullien
du monde chrétien,
oui, du monde chrétien,
ou judéo-chrétien. Oui. Oui.
La rupture que nous vivons aujourd'hui, oui, qui arrive à sa fin, n'est-elle pas encore plus importante?
Ah oui, parce qu'elle touche d'abord un territoire beaucoup, enfin, géographiquement beaucoup plus vaste que ce que fut l'Empire romain, même à son apogée. Il s'agit quasiment de la moitié de la planète. Donc c'est considérable. Et puis aussi parce que là, j'hésiterais à dire certaines choses. Je ne pense pas que l'islam ait le pouvoir qu'ont eu les prédications de Tertullien et de saint Augustin au 4e, 5e siècle, en dépit du fait que tous deux étaient des berbères. On est quand même passé. On ne voit pas le projet, si vous voulez, qui pourrait établir un nouvel empire. Donc de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave parce que c'est le chaos intégral qui succède, ou la violence intégrale qui succède à quelque chose, alors que au 4e, 5e siècle, époque pré-chrétienne, montrait déjà les signes d'une prodigieuse renaissance. Il y avait déjà les germes de cette renaissance qui étaient là. Aujourd'hui, on les chercherait désespérément, sauf à suivre la charia et à se déclarer soumis, comme le décrit Houellebecq. C'est plus grave aujourd'hui, oui. Beaucoup plus. Ça semble même aujourd'hui irrémédiable, mais bon. So what?
Écoutez, j'ai pas très envie de terminer l'émission
sur un so what.
Sur un so what.
Un anglicisme en plus. Non, mais je ne sais pas. Vous savez, je sais pas qui disait que les décadences étaient les époques les plus agréables à vivre qui soient, parce qu'on y goûte enfin tranquillement tous les plaisirs d'une civilisation sans avoir à
y contribuer.
À y contribuer trop. Je ne sais pas si c'est Cioran qui devait dire ça dans son cynisme. Souriant, c'était l'homme le plus souriant que j'ai jamais rencontré. Et bon, alors effectivement, on peut vivre quelques années d'une douce thébaïde avec à notre disposition la plus belle musique à tout instant du jour ou de la nuit, des expositions extraordinaires dans les musées, des lectures d'une haute culture, comme certains livres peut-être. Bon, c'est une décadence extraordinairement douce et agréable à vivre. Mais évidemment, le fait même qu'elle s'accélère à très grande vitesse depuis quelque temps peut nous inquiéter.
Est-ce que la solution, plutôt que de se perdre en conjecture sur l'avenir, le futur, les formes qu'il prendra, les germes du renouveau, ne consiste pas plus simplement, plus modestement et plus humblement à se retourner, à observer le sol sur lequel nous sommes nés, à prendre le temps à nouveau de le regarder, d'y mettre les pieds, peut-être,
bien sûr,
peut-être de le toucher des mains aussi,
bien sûr,
et de donc se réapproprier cet espace et la temporalité qui va avec lui, de s'extraire de ce tourbillon.
Oui, absolument. Les femmes n'ont jamais été aussi belles. Le soleil n'a jamais été aussi brillant que ces derniers jours. La nourriture n'a jamais été aussi riche. Enfin, bon, encore une fois, nous vivons une époque d'une extraordinaire abondance qu'aucune société n'a jamais connue. Donc on peut effectivement tout de même s'en réjouir et sans aucune arrière-pensée. Quand vous dites nostalgie, je suis pas certain d'être un nostalgique. Je suis inquiet, c'est très différent, mais pas nostalgique.
Non, je pensais plutôt à de la mélancolie, en fait.
La mélancolie, c'est un tempérament tout à fait ambigu et tout à fait ambivalent, puisque ça peut être la douce mélancolie ou la mélancolie furieuse. Ça peut être un sentiment très agréable à vivre, comme ça peut être un sentiment qui vous conduit à la folie et au meurtre. Donc, on peut choisir sa forme de mélancolie, si vous voulez.
Vous en avez choisi une ?
Ça serait plutôt une mélancolie douce, oui. Peut-être résignée, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas. Douce, certainement, oui. Pas la mélancolie furieuse. Je ne suis pas un réformateur.
Mais je pense que la mélancolie furieuse ne ferait qu'ajouter le désordre en désordre.
Je crois, oui. Non, je pensais à ça parce que on oublie toujours que dans la population qui souffre de la mélancolie, on dit toujours les fous ou les génies, mais Aristote ajoute les hommes d'État. C'est intéressant, les hommes d'État sont des gens, des gens affectés par la mélancolie. Donc effectivement, c'est intéressant, ça prouve que la mélancolie est profondément hantée dans la gestion des affaires politiques de ce monde et que voilà, des gens comme Hitler ou Staline furent des très grands mélancoliques.
Au niveau mélancoliques de l'espèce furieuse, alors.
Ah, de l'espèce la plus furieuse qui soit, mais il y en a eu aussi qui étaient aussi des grands mélancoliques bienfaiteurs de l'humain, de l'humanité. Donc, voilà, très difficile de trancher.
En tout cas, aujourd'hui, si vous me permettez, je leur souhaiterais presque de devenir mélancolique. Ça signifierait qu'ils sont des dirigeants et qu'ils ont un petit peu d'épaisseur humaine.
Oui, certainement. D'avoir un petit peu des accès de mélancolie, en tout cas, qui les obligent à... Mais je crois qu'il y en a, oui. Il y en a. Hier soir, à la réception de M. Finkielkraut, il y avait un Premier ministre qui était là, qui, je crois, a beaucoup d'énergie et qui est aussi un grand mélancolique.
Dans... Le démarrage de l'ouvrage.
Mm-hmm.
Je vais aggraver votre cas.
Non, non, non.
Vous citez donc Edmund Burke, oui. Réflexion sur l'évolution en France.
Oui.
La citation est la suivante. C'est mis donc en accroche. Ils ne devront pas s'imaginer que parmi leurs droits, il y a celui d'amputer leur patrimoine ou d'être prodigue de leur héritage en détruisant à leur gré tout le tissu originel de la société dans laquelle ils vivent, au risque de laisser après eux une ruine.
Oui.
Est-ce que la solution n'est pas justement de reconstruire cela, retisser les liens avec le passé? Je reviens sur cette idée exprimée tout à l'heure. Est-ce que la solution n'est pas finalement dans le passé, dans les racines, dans le patrimoine, dans l'histoire, dans la
connaissance, bien sûr,
plutôt que dans l'élucubration de nouvelles utopies?
J'en suis évidemment totalement convaincu. Il est évident qu'il n'y a pas de... Je parlais de l'extravagante réforme de l'orthographe ou réforme de l'éducation. Il est évident que le recours n'est pas là. Le recours serait évidemment de revenir... Si on dit revenir, on est tout de suite...
Redécouvrir,
assurer et faire l'effort de respecter le patrimoine culturel, aussi le patrimoine de l'histoire, qu'on sache exactement dans quelle histoire on s'inscrit, dans quel pays on est, et dans quelle culture on vit. Et là, effectivement, c'est une tâche énorme, magnifique, enthousiasmante. C'est pas un retour nostalgique, c'est pas du tout ça. C'est vraiment l'effort énorme de recouvrer, de récupérer, de recouvrer, de retrouver notre héritage. On ne peut pas dire plus.
Oui, pour filer la métaphore paysanne, le passé comme un humus.
Oui, c'est ça. Dans humus, il y a à la fois humble, il y a l'humilité. Hein, c'est pas de l'orgueil, au contraire. Et en même temps, c'est un terreau qui n'a rien à voir avec les engrais chimiques qui nous empoisonnent. C'est autre chose. C'est un terreau fécond, fertile, qu'on a totalement oublié. On vit quand même la fin des tout derniers paysans, quand on sait qu'il y a pratiquement un suicide de paysans une fois tous les deux jours. On est là face à une, comment dire, une espèce de, non seulement d'hécatombe, mais de désastre humain ahurissant dont on ne parle pratiquement pas. Or, c'est finalement aussi grave que les massacres des champs, des charniers si on fait les comptes de certaines guerres parmi les plus meurtrières. Bon, alors ce monde paysan aujourd'hui est en train vraiment de s'effacer sous nos yeux et en l'espace de quelques mois n'existera plus. Bon, le retour à l'histoire, le retour au patrimoine, le retour à la terre, encore une fois en disant ces mots qui n'ont rien à voir avec la ni avec Maurras, enfin, qu'on peut avoir avec Maurras et Barès, sont une nécessité dont il serait temps, grand temps, de se rendre compte.
Mais c'est peut-être une nécessité anthropologique, tout simplement, non ?
Oui, pour la survie de l'espèce, tout simplement.
Un homme hors sol, est-ce que c'est encore un homme ?
Non, mais non, je ne crois pas, non. Pas plus que les vaches ou les poulets hors sol, la viande, toute chose.
Ce sont des protéines.
Protéines, c'est ça. Encore pire.
Vous avez utilisé le terme d'humilité à travers tout l'ouvrage et même la façon dont vous vous exprimez. On sent que vous ne voulez pas être péremptoire, que vos phrases se terminent souvent en point de suspension à chacun d'en tirer des conclusions ou d'approfondir ses propres réflexions.
Je sais pas.
Je sais pas ce qui manque aussi aujourd'hui, l'humilité.
Oui, en tout cas, une certaine. Oui, appelons ça humilité dans le sens de l'humus, oui, c'est ça. Bon, peut-être parce que je suis de plus en plus frappé par l'espèce d'arrogance tranquille avec laquelle s'exprime une partie de mes contemporains. Ça me choque beaucoup au point que. Bon, je sais pas, c'est difficile. Je ferme la radio et j'éteins la télévision parce que c'est très agaçant, vraiment. Voilà, mais je ne prétends pas. Je devrais être plus humble de ce point de vue-là aussi, c'est-à-dire plus charitable et plus accueillant. Mais bon, pas grave.
Quand on dit comme vous, je ne sais pas, ça veut dire qu'on est humble. C'est très rare à la radio, je ne parle pas dans la nôtre, d'entendre des invités dire je ne sais pas.
Je ne sais pas, c'est vrai. Mais vraiment, je ne sais pas.
Dans votre ouvrage est titré La part de l'ange.
Oui.
À plusieurs reprises, cette part de l'ange est évoquée. Est-ce que c'est pas un signe d'humilité aussi que cette part de l'ange ?
Oui, en tout cas, c'est comment dire, c'est l'épreuve de la nécessité, comment dire, d'une économie qui n'est pas rentable. C'est-à-dire ouais, la part de l'ange, c'est cette part prise par la distillation des alcools dans un fût qui font que la meilleure partie, au fond, s'amasse dans le haut du fût et on ne peut pas la récupérer puisqu'elle s'évapore. Donc on appelle ça la part de l'ange parce que c'est fait pour les esprits supérieurs, les esprits au double sens du terme, c'est un esprit pour les esprits. C'est en même temps une économie, comment dire, qui réserve la meilleure part de sa production, non pas à l'humain, mais aux puissances supérieures, transcendantes, si vous voulez, qui ont permis que ces récoltes se fassent. Parce que ce gâchis, ce gaspillage, aujourd'hui, est totalement incompréhensible, que tout doit rendre obligatoirement, tout doit rendre. Or, dans cette économie-là, qui est celle des prémices, où les prémices sont données aux puissances supérieures, eh ben, effectivement, il faut accepter de donner et non pas de vendre. Aujourd'hui, nous sommes, c'est le compte de la société actuelle, une société où l'on vend absolument tout et même un peu plus que tout. Et je cite l'exemple, effectivement, aussi dans ces économies rustiques, agraires, du fait que dans les maisons, qui pourtant étaient petites, on gardait en général une chambre où l'aïeul avait vécu, alors même qu'elle n'était plus là, parce qu'on lui gardait cette chambre, comme une espèce de tombeau très modeste pour elle. Donc c'était encore une fois cette vision de l'économie où l'on donne, où l'on sacrifie, au sens propre du mot sacrifier, est aujourd'hui totalement incompréhensible selon les principes bancaires de rentabilité, où au contraire on fait de l'argent sur rien. C'est exactement le contraire. Donc il y a là évidemment quelque chose qui se passe. Moi, en tant qu'historien d'art intéressé au commerce des œuvres d'art, je suis très frappé par ça. C'est-à-dire que plus l'œuvre d'art est vide, nulle, absente, sans aucun sens et sans aucune valeur en soi, elle acquiert un prix de plus en plus élevé sur les marchés et dans les salles des ventes. Donc là, c'est très intéressant. Phénomène que je compare à celui des hedge funds aux États-Unis, où l'émission de créances qui sont éminemment douteuses. Or, une œuvre d'art contemporain est une création, et donc aussi une créance, si on l'achète, éminemment douteuse. Eh bien, ça n'est possible de la mettre sur le marché qu'à condition de la titriser, comme on dit, c'est-à-dire de la garantir par un système financier tout à fait sophistiqué. Ce qui veut dire qu'on arrive à vendre très cher des choses qui n'ont aucune valeur. C'est à peu près ce qui se passe dans le fonctionnement de l'art contemporain et de son négoce aujourd'hui, qui est évidemment exactement le contraire absolu de l'économie, où la part de l'ange était le principe dominant des échanges et des acquisitions.
Oui, une société qui va vers l'abstraction, qui est fascinée par le vide.
Oui, je ne sais même pas si c'est ça, fascinée par le... Si au moins c'était le vide et l'abstraction, on pourrait imaginer qu'elles produisent des ermites, des ascédiaques, des personnages vivant à l'écart du monde, ça existait. Là, ce n'est pas du tout ça, c'est l'argent pour l'argent, c'est la money's money. Il n'y a même pas de profit, il n'y a même pas de jouissance accompagnant cette manipulation.
Peut-être un peu de sarcasme ?
Même pas, je crois pas. Ou alors c'est à un niveau de cynisme tellement élevé que je n'arrive pas à y découvrir le moindre trait de sarcastique.
Ça reste un mystère, donc.
Oui, tout à fait, je ne sais pas.
En tout cas, il y a une chose dont je suis sûr, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose, c'est que votre ouvrage titré « La part de l'ange », cette part de l'ange-là n'est pas perdue, comme celle du cognac, de tout autre alcool. elle est revigorante, elle pousse à la réflexion et laisse vagabonder son esprit sur des sujets qui en valent réellement la peine. Elle aide à percevoir les choses sous un nouveau jour, et c'est pour ça que je ne peux que recommander à nos éditeurs de s'y plonger, de le lire en prenant le temps, pas dans un train comme moi, plutôt au coin du feu, et ce serait une excellente façon d'acquérir un nouveau regard sur les mutations du monde, mais aussi sur ce qu'il a de permanent, parce que c'est aussi ce qui est beau dans votre livre, ce n'est pas seulement une réflexion sur les mutations, mais sur les choses qui sont permanentes. Et tiens, ça y est, j'ai trouvé l'éclair, la lueur d'espoir qui nous manquait. C'est que dans la bienveillance que vous avez de parler des gens, de vos maîtres ou de certains de vos contemporains, on sent que face à ce tourbillon, il y a aussi cette beauté probablement indestructible de l'humanité qui s'incarne dans les visages sur lesquels vous avez de très belles pages aussi.
Merci. Merci à vous.